et dans l'immédiat. Parce que le prophète a dit alayhi salatu wa salam, wa da'watul mazloum, yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam, wa yaqulu bi'izzati wa jalali la ansurannaka wa law ba'da hin. Dieu porte l'invocation de toute personne qui est victime d'injustice au-dessus des nuages. Et Dieu jure, wa izzati wa jalali, je jure par ma grandeur et ma majesté, je répondrai, même si c'est après quelques instants, je répondrai à ton invocation. C'est ce que Dieu dit à cette personne qui élève cette invocation-là vers Dieu et qui est victime d'injustice. Ça, c'est un message que l'islam adresse à toute personne qui a, par exemple, une parcelle de pouvoir. Parce que généralement, l'injustice vient de quelqu'un qui a un certain pouvoir sur l'autre, sur la victime. Ce n'est pas par hasard que dans les pays où sévit l'injustice, de la part des dirigeants, il y a précisément cette instabilité politique. Et l'injustice a plusieurs formes, évidemment. Lorsque Dieu place le dépôt, l'amana de la gestion de la communauté dans les mains d'une personne, un dirigeant, un président par exemple, ou un roi, ou un ministre, etc., et qui, au lieu d'utiliser ce bien, ce dépôt, ce denier public, ce bien public, au lieu de l'utiliser pour servir la communauté, notamment les franges les plus démunies de la communauté, les pauvres et les déshérités, les laisser pour compte, au lieu de les servir, la personne se sert d'abord, suffisamment en premier lieu. On a parlé d'un dirigeant, un des dirigeants des pays, tout récemment on m'a parlé d'un dirigeant d'un pays musulman, d'Afrique, dont le peuple souffre, qui fait partie des pays les plus pauvres du monde, qui lorsque certains de ses fonctionnaires, je crois que c'est un premier ministre ou un président, quand son staff, un membre de son staff, c'est-à-dire de son personnel, vient au bureau avec une cravate dont la couleur n'est pas conforme à la chemise ou au costume, se plaint en lui disant pourquoi il se comporte comme ça et s'habille mal. Alors que dans les bidonvilles de sa capitale, il y a des gens qui passent des jours et des jours sans manger. Alors c'est ce qui explique la stabilité, l'instabilité. Ces prières qui parfois ne sont pas adressées directement, oralement à Dieu par la victime, mais c'est ce qu'on appelle lisanul hal, c'est la situation dans laquelle se trouve cette victime là qui est en réalité une invocation qui s'adresse à Dieu et qui finit par être exaucée en renversant les situations. Donc c'est l'instabilité politique, puisqu'il y a déjà eu l'instabilité sociale avec la pauvreté, la misère qui s'installe. Ainsi donc, c'est un message qui s'adresse à tous, aux dirigeants comme aux dirigés, que pour que les citoyens soient attentifs sur cette question. Il n'y a rien de fortuit en islam. Le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, adhambu la yabla. Le péché, un péché, quand vous le commettez, ne vieillit pas. Il est toujours le même, il ne vieillit pas. Waddayanu la yamut. Le Seigneur des mondes qui applique la loi de la compensation. La loi de la compensation. Quand on fait du mal à quelqu'un, ça se compense d'une autre manière. C'est-à-dire on finit par payer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on appelle, c'est un des attributs de Dieu, Ad-Dayyan. Celui qui applique par excellence la loi de la compensation, c'est-à-dire qui rend justice. Ad-Dayyan, le hadith dit Ad-Dayyan la yamut, ce Dieu-là, lui, il ne meurt pas lui aussi. Le péché ne vieillit pas, Dieu aussi ne meurt pas. I'mal ma'ashita, fais ce que tu veux, kama tadinu tudan. De même que tu commets un forfait contre quelqu'un d'autre, de même que tu fais des actes négatifs, tu les payeras soit en remboursant parmi ce que tu as de positif, ou bien en te chargeant des actes négatifs de l'autre, de la victime. En effet, Dieu, le prophète alayhi salatu wasalam, nous dit le jour des comptes. Le prophète a dit alayhi salatu wasalam, Atadruna manil muflis. Savez-vous véritablement qui est en faillite? Qui est la personne qui en réalité tombe en faillite? Ici dans le monde, on nous dit que telle société est tombée en faillite, ou bien tel individu est tombé en faillite dans son commerce. Le prophète a dit alayhi salatu wasalam à ses compagnons, savez-vous qui véritablement tombe en faillite? Les gens ont dit Allahu wa rasuluhu alam, et les gens ont dit que chez nous c'est quelqu'un qui a perdu ses biens, qui n'a pas de dirham ou de dinar. C'est cette personne-là qui est en faillite dans notre entendement. Le prophète a dit alayhi salatu wasalam, non, ça c'est très très simple. C'est une situation qui n'est pas très importante. La faillite de l'ici-bas, c'est la faillite de l'au-delà qui importe, waliyazu billahi, que Dieu nous en garde. Quelle est la faillite de l'au-delà? Il dit quelqu'un qui a passé sa vie d'ici-bas à œuvrer, à faire des bonnes œuvres. Il fait l'aumône, il fait les prières, il jeûne, il fait le pèlerinage. Il fait des bonnes actions. Mais à côté des bonnes actions, il fait des mauvaises œuvres, c'est-à-dire qu'il usurpe le droit des autres. Il porte atteinte aux droits des autres, à leur honneur, à leur bien, à leur vie, tout en faisant des bonnes œuvres. Le jour des comptes, quand on vient faire la comptabilité des actes, quand les balances sont placées et que l'on doit peser les actions, les bonnes actions et les mauvaises actions, les gens qui ont été victimes du comportement de cette personne-là dans l'ici-bas, chacun vient se présenter et dire à Dieu, voilà ce qu'un tel m'a fait. L'autre dit, voilà ce qu'un tel m'a fait. On vient, on comptabilise. Donc, on prend de ses bienfaits, les bienfaits de cette personne-là ou de ce musulman qui a eu des prières, qui a jeûné, qui a fait l'aumône, qui a fait le pèlerinage, pour payer, pour rembourser les autres, parce que les autres sont victimes de son mal, du mal de sa main ou de sa langue. Chaque fois donc, on prend une partie de ses biens pour rembourser les dettes de l'autre. Ainsi de suite, et finalement, il n'a plus de bonnes œuvres. Tout est épuisé. Et il reste encore des gens qui ont des droits, qui réclament. Un tel m'a fait ceci au Dieu, un tel m'a fait cela au Dieu. En ce moment, puisqu'il n'a plus de bonnes œuvres, on prend les mauvaises actions de ces gens-là, à concurrence du mal dont ils ont été victimes, pour les replacer, pour les placer sur les épaules de cette personne-là. Donc, d'un bilan positif, il se retrouve avec un bilan négatif, waliyazu billah, et il tombe en faillite. Le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, c'est cette personne-là véritablement qui est en faillite. C'est la faillite de l'au-delà et non la faillite de l'ici-bas qui est véritablement la faillite. C'est pourquoi il est important que chacun se ressaisisse sur ce plan. Ça, c'est donc par rapport au hadith que nous avons lu tout à l'heure, le da'watul madloum. Toujours dans le cadre de la préservation de cette stabilité dont nous avons besoin, le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, il y a un certain nombre d'actes, de mauvais actes évidemment, qui, lorsqu'ils sont commis au sein d'une communauté, cela attire, à cette communauté, la pauvreté, la misère, la sécheresse et autres calamités. C'est le fait de ne pas respecter les poids et mesures. Vous savez que Dieu a envoyé un prophète spécialement à une communauté qui s'était caractérisée dans l'injustice ou dans la mauvaise application des poids et mesures. C'est le peuple de Madian sur lequel Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Shu'aib. De même que Dieu a envoyé chez Sodome et Gomorre le peuple de Lout, Dieu a envoyé le prophète Lout, un peuple donc qui était spécialisé, qui est le premier peuple à inventer l'homosexualité. Nous en viendrons, inshallah, dans un deuxième hadith. Dieu a envoyé un prophète spécialement chez cette communauté, la communauté de Sodome, pour leur dire de mettre fin à ce péché. De la même manière, Dieu envoie également au peuple de Madian le prophète Shuaïb pour venir leur dire que Dieu leur interdit de violer les poids et mesures, l'utilisation des poids et mesures. Et le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, c'est un acte lorsqu'il est commis dans une communauté sans qu'il y ait des gens pour l'interdire. Ça attire à cette communauté la pauvreté, la misère, la sécheresse et toutes les autres calamités de ce type. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que les citoyens, ça c'est un comportement civique, c'est un comportement de foi, de responsabilité que les citoyens doivent assumer. C'est pourquoi je dis que non seulement le chef de l'État qui est le premier responsable a un dépôt, a une responsabilité à assumer devant Dieu pour assurer et préserver la stabilité de la communauté, de même les citoyens également ont des responsabilités. Évidemment, le tout revient encore au chef de l'État parce qu'il est le premier responsable, il est responsable devant Dieu de la santé, du comportement, de l'attitude de sa communauté. Parce qu'il y a un travail à faire, notamment un travail d'éducation, de sensibilisation pour amener la communauté vers Dieu. Donc, il est important que les membres de la communauté sachent que ils encourent la colère de Dieu en violant la bonne utilisation des poids et mesures. Nous avons également un autre hadith. Ce sont des exemples que nous prenons. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, toute communauté qui s'adonne à la licence sexuelle de tout type, que ce soit l'adultère, la fornication, l'homosexualité et autres, tout ce qui se rapporte à la sexualité, mais qui ne se fait pas dans les normes prescrites par Dieu. Toute communauté qui s'adonne à cela connaîtra des maladies que les prédécesseurs n'ont pas connues. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prophétisé. Et sa prophétisation ou sa prophétie s'est réalisée aujourd'hui de manière très évidente et très manifeste au 20e siècle ou à l'orée du 21e siècle de l'ère grégorienne. En effet, nous avons vu que le monde d'aujourd'hui, notre monde, qui est tombé dans le matérialisme, dans l'individualisme, dans l'oubli de Dieu, ne s'est jamais adonné autant à la sexualité désordonnée que ce que nous avons vu aujourd'hui au XXe siècle, où la pornographie a pris des dimensions incontrôlées. Et nous avons vu que Dieu a fait sortir une maladie que l'humanité n'a jamais connue dans sa longue histoire. Le mal du siècle, le sida, qui est le résultat justement de cette licence sexuelle, de cette prolifération de la pornographie, ce qui déstabilise les communautés. Aujourd'hui, nous voyons que dans les pays où sévit ce mal, il y a une instabilité sociale. Des foyers qui sont rompus, n'est-ce pas? La jeunesse, généralement, qui est donc la première victime, ça déstabilise la société parce qu'une communauté qui n'a pas sa jeunesse cessera d'exister. Une communauté dont la famille ne connaît pas de stabilité ne peut pas connaître la stabilité. Donc nous avons précisément ce problème. Ainsi donc, c'est le retour de l'humanité tout entière, et en particulier le retour de la communauté musulmane d'une manière générale, et la communauté musulmane de ce pays en particulier, son retour vers l'islam, qui peut lui assurer la stabilité, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan social. Sur le plan politique, pour qu'il y ait stabilité, il faut que dans la gestion de la communauté au plan politique, que l'on tienne compte véritablement de l'ordre de Dieu. il ne peut pas avoir de stabilité, quel que soit ce que les gens feront, tant que dans la gestion de la communauté, on ne se réfère pas à Dieu. Et la référence à faire à Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement le fait de jurer pour l'application d'une constitution, mais c'est jurer pour appliquer un contenu que Dieu a gravé dans cette constitution. Parce que nous ne pouvons pas assurer la justice tant que nous n'appliquons pas la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est la vraie justice, qui tient compte des normes et des priorités dans le respect des droits et dans l'application des règles de gestion de la communauté. Il faut que ce soit l'ordre de Dieu qui soit appliqué. Parce que nous l'avons vu l'autre jour, dans l'ordre des priorités, il faut d'abord respecter les droits de Dieu. C'est par le respect des droits de Dieu qu'on a une motivation qui nous permet de respecter les droits de l'être humain. C'est lorsque nous espérons Dieu, c'est lorsque nous avons foi au fait que nous rencontrerons Dieu et que nous rendrons compte à Dieu de nos actes, que nous allons véritablement respecter les droits des autres. Parce que c'est le respect des droits, c'est le respect de la justice, de l'équité, c'est le sens de la responsabilité, de la transparence. C'est la lutte contre tous les maux que nous connaissons, comme la corruption, comme le népotisme, comme le favoritisme, etc. C'est cela qui peut assurer la stabilité politique et partant sociale de la communauté. C'est la lutte contre des maux comme le régionalisme, comme l'ethnocentrisme, comme le racisme. C'est la lutte contre ces maux-là qui nous permettent véritablement d'avoir la stabilité que nous recherchons. Or, comment peut-on combattre le régionalisme, le racisme, si nous n'avons pas des critères et des normes qui dépassent les normes que nous nous donnons, nous les êtres humains, dans notre imperfection et dans notre faillibilité? C'est Dieu qui nous donne des normes. Si nous n'avons pas les normes de Dieu, nous ne pouvons pas nous guider, parce que l'être humain sans Dieu se trouve dans des ténèbres. Il ne sait pas où placer son pied. Il peut le placer sur un serpent ou tomber dans un trou, parce qu'il vit dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. À quiconque Dieu n'a pas donné de lumière, quiconque n'a pas la lumière de Dieu, n'a pas de lumière, il vit, il marche, il évolue dans les ténèbres. Et à chaque instant, il peut courir à sa perdition, à sa fin et à son anéantissement. C'est Dieu qui nous a dit, par exemple, par rapport au racisme, au régionalisme, c'est Dieu qui nous a éclairé sur ce plan, en nous disant, ne regardez pas les couleurs. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous de la même essence et de la même souche. كلكم لآدم وآدم من تراب. Et Dieu a dit également dans le Coran, vous êtes tous donc d'Adam, d'un premier couple. Ne regardez pas, ne considérez pas les couleurs. Le prophète a dit عليه الصلاة والسلام, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَلْوَانِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Dieu ne considère pas vos couleurs ou bien vos races. Il ne regarde pas votre image extérieure. Un tel est long, un autre est court, celui-là est gros, celui-là est mince, celui-là il est beau, celui-là est moins beau. Ça n'intéresse pas Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé pour nous éprouver avec ses différences, pour nous montrer ses signes, les signes de sa puissance et de son unicité. Mais Dieu regarde quoi? وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَعَمَالِكُمْ. Il regarde plutôt, il considère plutôt ce que vous portez dans vos cœurs, c'est-à-dire la foi, vos intentions, وَعَمَالِكُمْ et vos actions. Donc c'est Dieu qui nous donne les normes. Nous les êtres humains, nous ne pouvons pas voir ce qui est véritablement la bonne norme si nous ne sommes pas guidés par la révélation, si nous ne sommes pas guidés par Dieu. Donc c'est l'islam qui nous permet à travers cette foi en Dieu qui nous oriente par la révélation, de savoir par exemple que le racisme, le tribalisme, le régionalisme, tout cela est superflu. Tout cela est une perte de temps. Tout cela ne donnera absolument rien, aucun résultat, si nos actions, si ce que nous portons dans nos cœurs ne sont pas positifs. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith pour expliquer cela, un hadith très éloquent, alayhi salatu wassalam, il a dit, quiconque dont la promotion est ralentie, a été ralentie par ses actions, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par ses actions, n'a pas pu accélérer son évolution, eh bien, ce n'est pas sa race qui va accélérer sa marche, la marche de son évolution ou de sa promotion. C'est ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire une personne qui n'a pas pu faire des bonnes actions permettant d'assurer sa promotion et son élévation sociale, sa promotion sociale, pour lui donner de l'importance dans la société. Une personne dont les actions n'ont pas contribué à cela, ce n'est pas sa race qui va faire ce travail-là. Donc ce sont les actions qui détermine la place que l'être humain occupe, même dans la communauté, même dans la société. Si nous prenons la responsabilité, la transparence, si nous prenons le respect des poids et mesures dont nous avons parlé, si nous parlons de la nécessité de faire preuve de justice et d'équité, qu'est-ce qui peut nous motiver dans tout cela? C'est notre espoir de rencontrer Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, alayhi salatu wassalam, « Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmi l'akhir, fal yakul khayran aw liyasmut, fal yukrim jarahu, fal yukrim dayfahu. » Quiconque parmi vous espère Dieu et le jour dernier. Et le prophète dit, c'est cette personne-là qui peut faire de telles bonnes actions, qui peut dire une bonne parole ou de préférence se tait. Quiconque parmi vous espère Dieu le jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Parce que ce que vous dites, c'est enregistré. Il y a les anges qui sont autour de vous qui enregistrent. Quelqu'un qui espère Dieu, qui sait qu'il rendra compte à Dieu de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, très certainement va réfléchir avant de parler. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, quiconque parmi vous espère Dieu le jour dernier, qu'il honore son hôte, qu'il honore son voisin, c'est-à-dire qu'il respecte le droit du voisinage et le droit de l'hospitalité, parce que l'hospitalité est un droit en islam, tout au moins pour 3 jours. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire, qu'est-ce qui nous donne tous ces comportements, toutes ces attitudes? Comme nous l'avons dit l'autre jour, il faut nécessairement qu'il y ait une motivation, et une très forte motivation. Cette motivation, c'est ce que le prophète a dit dans ce verset, espérer Dieu et le jour dernier. Il faut qu'il y ait une forte motivation qui est plus forte que ce vers quoi notre âme, les impulsions de nos âmes, nos passions nous tirent. Et c'est pour cela que Dieu dit dans un verset, subhanahu wa ta'ala, « Falaqtahama al-aqaba » وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. C'est ce que Dieu nous dit dans ce verset en nous parlant de l'énergie qui doit nous animer, qui doit être une énergie forte pour dépasser la force de nos passions qui nous tirent vers le démon, qui nous tire vers la terre, pour que nous éternisions vers le bas et que nous ne montions pas vers Dieu. C'est ce que le verset dit. فَلَقْتَحَمَ الْأَقَبَى. Il faut percer l'obstacle, avoir suffisamment de force, d'énergie pour percer cet obstacle. L'obstacle, c'est quoi? C'est la passion qui nous tire vers le démon. Et le verset nous donne quelques exemples de cet obstacle qui nous tire vers le démon, qui nous empêche de nous élever vers Dieu, en disant « Wa ma adraka ma al-aqaba ». Savez-vous de quel obstacle s'agit-il? Exemple « Faqqu raqabatin ». Il faut libérer le prisonnier, il faut libérer l'esclave. C'est ce que l'islam nous demande de faire. Un prisonnier qui a été pris quelque part par l'ennemi, nous avons des biens, nous pouvons le racheter. Ne regardons pas ce que nous avons, nous n'allons pas nous appauvrir. Sortons de ce que Dieu nous a donné pour racheter le prisonnier. De la même manière, cet esclave qui est là, qui est sous le joug de l'esclavage, nous avons les moyens de le racheter, il faut le racheter, le libérer, pour qu'il puisse accéder à Dieu. Faqqu raqabatin. Aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Ou bien nourrir dans une situation de difficulté et d'épreuve, comme par exemple les famines, les sécheresses et autres. Qui faut-il nourrir? Yatiman za maqraba. Un orphelin qui est proche de vous, qui est lié par vous par un lien de parenté, parce que généralement l'orphelin est élevé par un parent à lui. Dieu nous demande donc d'être bon, d'être compatissant vis-à-vis de cet orphelin qui est avec nous. Il faut le nourrir sans calcul, en recherchant l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là que le verset a appelé « Yatiman dha maqraba ». Et ensuite, wa miskinan dha matraba. Vous voyez ici qu'il y a le sens, il y a le fond et la forme. Yatiman dha maqrabatin wa miskinan dha matraba. Ça se ressemble, mais ce n'est pas le même sens. Ça se ressemble parce que ça rime, c'est beau, c'est le Coran. C'est la forme extérieure, c'est la formulation. Alors qui est al miskinan dha matraba? Le miskin, le pauvre dha matraba, qui est proche de la poussière. Al-matrab, ça vient de turab qui veut dire la poussière. Parce que le pauvre, il n'est pas loin de la poussière, il est poussiéreux, il est fatigué. Parfois, il s'assoit à même le sol, etc. Ces gens-là, on nous demande de les nourrir, de les prendre en charge. C'est ça, percer l'obstacle. C'est par cela que nous perçons l'obstacle. C'est par cela que nous assurons notre stabilité. Parce que nous acquérons la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. C'est cela qui veut dire, en fait, rendre grâce à Dieu par ce qu'il nous a donné, pour que le bienfait, pour que cette stabilité puisse rester, pour que Dieu nous augmente les bienfaits dont il nous entoure. Il faut nourrir le pauvre, ce pauvre-là qui est à même le sol, qui est dans la poussière, qui est toujours en train de marcher de porte en porte pour chercher sa pitance quotidienne. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir, il faut le prendre en charge. Donc les laisser pour compte en islam, Dieu nous demande dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous occuper d'eux pour que Dieu nous donne sa miséricorde, pour que le bienfait dont Dieu nous entoure puisse rester. Et à ce propos, je vais terminer d'abord le verset « Wa miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu ». Mais tout cela doit être sous-tendu par la foi. Par la foi en Dieu. En islam, Dieu n'accepte pas une bonne œuvre tant qu'on n'a pas d'abord la foi en Dieu. Quand on ne croit pas en Dieu, qu'est-ce que Dieu fait de ce que vous faites en bonnes œuvres? La condition sine qua non pour qu'une bonne action soit exaucée par Dieu, c'est d'abord adhérer à l'ordre de Dieu, c'est d'abord croire en Dieu. Cela doit être donc sous-tendu par la foi. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabr wa tawasaw bil-marhama. Et être parmi les gens qui, au sein de la communauté, s'enjoignent mutuellement, se recommandent mutuellement le bien, mais dans la patience et dans la compassion réciproque. Dans la patience, dans la société, lorsque vous choisissez de faire du bien, d'informer les gens, d'appeler les gens vers Dieu, vers le bien, vers la vertu, vers la droiture, vers l'intégrité, c'est sûr et certain que sur ce chemin, vous allez rencontrer des obstacles. Des gens qui vont vous accueillir mal, peut-être. Mais Dieu nous dit dans ce verset, le verset qui nous qui nous montre comment nous pouvons percer l'obstacle, il nous demande d'être patient, d'être endurant. Wal marhama, wa tawassou bil marhama. On s'enjoint également de faire le bien, d'interdire le mal dans la société, dans la compassion et la miséricorde. C'est-à-dire que vous allez vers l'autre pour l'inviter à Dieu, pour qu'il sorte dans la situation, dans la mauvaise situation dans laquelle il se trouve, parce que vous avez pitié de lui, parce que vous éprouvez une compassion à son égard. Comme un médecin qui va soigner un malade. Il reçoit le malade, il le met à l'aise, n'est-ce pas ? Il le met dans les conditions qui lui permettent moralement d'être d'abord guéri, moralement avant d'être guéri physiquement. Donc ce membre de la communauté qui est malade spirituellement, il a besoin également des mêmes égards. Vous allez vers lui en toute compassion, en toute miséricorde. Vous utilisez la pédagogie.